Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée, de leur pensée ou des auteurs qui leur sont chers. À 10h46, Géraldine Mosna-Savoie vous proposera, comme tous les vendredis en période électorale, son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Elle réfléchira aujourd'hui sur l'utilité de moraliser la vie politique. Au programme aujourd'hui, une philosophie de l'exigence. C'est le sous-titre d'un ouvrage clair, pédagogique et passionnant consacré à ceux qui pourtant rejettent la passion, les stoïciens, un livre de la philosophe Christelle Veillard.
C'est par un paragraphe extraordinaire que Sénèque commence la première des lettres qu'il adresse à son ami Lucilius. C'est ce paragraphe qui me propulsa, et pour longtemps, dans la fréquentation des textes stoïciens, ceux de Sénèque d'abord, puis ceux, tout aussi percutants, de ses plumes que furent Marc Aurèle, Épictète, Musonius Rufus, et tant d'autres encore. Par-delà les siècles, les textes stoïciens nous parlent en effet toujours de manière frappante. Pourquoi cela ? Ils nous parlent de l'homme, d'une façon telle qu'on ne peut que les admirer, y puiser sa propre force et son inspiration quotidienne. Il nous parle d'un homme libre et puissant, fort d'une tranquille assurance, assurance acquise par le biais d'une approche ultra-rationnelle du monde. Approche trop brutale, rigueur excessive, le stoïcisme en tout cas nous propose un modèle d'une grandeur inégalée. Lire un texte stoïcien, ce n'est pas simplement être appelé à faire mieux, à donner son maximum, ou encore à s'efforcer d'être meilleur. C'est d'abord et avant tout prendre une grande bouffée d'un air si frais qu'il pourra paraître glacé à certains, et peut-être impropre à toute respiration ultérieure. Ne plus jamais respirer comme avant, ne plus jamais vivre comme avant, c'est ce que nous propose Sénèque dans le paragraphe inaugural. Sautons donc à pieds joints dans ce système et aspirons à pleine bouffée l'air frais du stoïcisme.
C'est cela, mon cher Lucilius. Revendique tes droits sur toi-même. Jusqu'ici, on te prenait ton temps. On te le dérobait, il t'échappait. Recueille ce capital et ménage-le. Oui, sois-en convaincu, les choses vont comme je te le dis. Il est de nos instants qu'on nous arrache. Il en est qu'on nous escamote. Il en est qui nous coule entre les doigts. La perte, à bien parler, n'est jamais plus blâmable que lorsqu'elle provient d'incurie. Du reste, regarde-y de près. La part la plus considérable de la vie se passe à mal faire, une large part à ne rien faire, toute la vie à n'être pas à ce que l'on fait. Me citeras-tu un homme qui attribue une valeur réelle au temps, qui pèse le prix d'une journée, qui comprenne qu'il meurt un peu chaque jour? Telle est en effet l'erreur. Nous ne voyons la mort que devant nous, alors qu'elle est en grande partie déjà chose passée. Tout ce que nous laissons derrière nous de notre existence est dévolu à la mort. Fais donc, mon cher Lucilius, comme tu le dis. Empare-toi de toutes tes heures. Ainsi, tu dépendras moins de demain, pour avoir opéré une mainmise sur le jour présent. Tandis que l'on diffère de vivre, la vie court.
Bonjour Christelle Veillard.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous faites paraître donc aux éditions Ellipse un ouvrage qui s'appelle « Les stoïciens, une philosophie de l'exigence ». Vous en avez lu un extrait, c'est une nouvelle collection des éditions Ellipse qui part d'un rapport peut-être un peu plus personnel entre l'auteur et les auteurs ou la philosophie dont il parle. C'est exactement le but de cette émission aussi, hein, puisque vous avez commencé en lisant un paragraphe qui montre l'espèce de choc que vous avez eu en lisant un texte de la lettre à Lucilius que nous venons d'entendre, interprété par le comédien Yvan Moran, avec cette phrase assez incroyable, hein, je dois dire, la part la plus considérable de la vie se passe à mal faire, une large part à ne rien faire et toute la vie à n'être pas à ce que l'on fait.
En effet, c'est une phrase qui est extrêmement belle déjà, extrêmement concentrée dans ce qu'elle dit, et puis qui frappe effectivement les esprits et qui m'a frappée lorsque la première fois je l'ai lue. Et c'est ce qui m'a incité à lire de manière un peu mécanique après la totalité des lettres à Lucilius de Sénèque, puisque je cherchais aussi des phrases comme ça, qui soient des concentrés finalement de morale ou bien de, disons, de sagesse percutante. C'est un peu finalement des vérités qui nous sautent à la figure. J'ai l'impression.
C'était quand la première fois vous l'avez lu? Parce que c'est pas le premier ouvrage que vous consacrez aux stoïciens. Vous êtes maître de conférence en philosophie ancienne à l'université Paris-Nanterre et vous avez écrit, c'est le troisième livre que vous consacrez aux stoïciens.
En effet, donc quand j'étais étudiante en maîtrise, c'est-à-dire au siècle dernier, dans des temps très lointains.
Au sens propre du terme, c'est
vrai. Voilà. J'ai lu Sénèque et j'ai décidé de consacrer mon mémoire de maîtrise à Sénèque et à l'action chez Sénèque et Aristote. Et c'est par là, finalement, que j'ai commencé à lire ces textes, en particulier donc par cette première lettre-là. Et finalement, je crois que cette lettre m'a parlé parce qu'elle rejoignait un aspect fondamental pour moi, finalement, de toute réflexion philosophique. C'est d'abord le rapport au temps et puis le rôle que joue la philosophie dans la manière dont on occupe notre vie. Si on reprend la phrase, la part la plus considérable de la vie se passe à mal faire. Donc on est occupé par les regrets de tout ce qu'on a raté. Ou bien une large part à ne rien faire. Donc là, quand on est finalement fatigué d'avoir raté les choses, on se met à ne plus rien faire et à devenir un peu paresseux peut-être. Et toute la vie à n'être pas à ce que l'on fait, ça décrivait pour moi la troisième attitude possible, à savoir une attitude de distraction ou de divertissement, qui fait qu'on essaye de faire énormément de choses en même temps et qu'on les fait toutes mal, puisqu'on n'est jamais véritablement présent, véritablement à ce que l'on fait. Donc c'était un peu ce qui m'a frappé aussi dans cette lettre, c'est ça, le regret, la paresse et la distraction. Ça me paraissait être les trois écueils qui font que le temps s'enfuit entre nos doigts, ou qu'en tout cas on a l'impression de mal l'utiliser, et qu'on perd notre vie en regrettant toujours toutes nos actions.
Et vous présentez le stoïcisme quasiment comme un remède, hein, vous dites, et d'ailleurs c'est la première fois que je lis ça à propos du stoïcisme, que c'est comme prendre une grande bouffée d'air frais, peut-être tellement glacial que ça va asphyxier certains, mais il y a ce côté de presque de nouvelle vie, de nouveau départ quand on lit les stoïciens.
Alors je crois que c'est exactement ce que les stoïciens essayent de faire, hein, à savoir nous frapper par toutes ces belles formules, mais qui ont aussi un sens très fort, nous frapper pour nous réveiller et nous faire prendre conscience des choses. Et leur second mouvement, c'est d'installer des valeurs différentes, ou en tout cas de nous faire adopter des attitudes différentes. Donc nous constatons que quelque chose ne convient pas, et nous sommes amenés donc à modifier totalement notre comportement en adoptant finalement une manière de voir le monde différente ou décalée et qui peut apparaître, donc c'est pour ça que je l'ai décrit comme ça, comme une espèce de bouffée d'air qui peut être un peu pratiquement étouffant quelquefois, c'est que on a des énoncés qui sont absolument absurdes au premier regard. Par exemple, la mort n'est pas un mal ou la souffrance n'est pas un mal, ça ce sont des choses que nous devons finalement admettre comme étant vrai pour pouvoir redresser notre manière de vivre les choses et pour pouvoir, disent les stoïciens, enfin les vivre correctement.
Et cette bouffée d'air frais, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle n'arrive pas sans doute instantanément. C'est-à-dire que le stoïcisme nous apprend aussi à composer avec les vertus de la médiation. L'immédiat n'est pas le fin mot de l'affaire. Et de même pour la lecture, certaines phrases peuvent nous parler directement, mais pour atteindre ce que ces phrases proposent ou promettent, il faut un certain travail, un cheminement, et c'est ce que le stoïcisme dessine pour nous.
Tout à fait, et c'est là où le génie de Sénèque s'exprime, à mon avis, c'est-à-dire qu'il est capable, avec cette belle langue qui est la sienne, à la fois de nous faire prendre conscience de tout, tous ces éléments-là que nous devons changer et en même temps de nous avertir que la voie va être compliquée, que la voie, ça n'est pas justement une voie de la révélation subite, c'est un long cheminement rationnel et c'est aussi la raison pour laquelle finalement j'ai plongé avec autant de délices dans ce système, puisque l'objectif, c'est justement de donner des raisons à tous les événements et d'expliquer par la rationalité la plus complète possible tout ce qui nous advient, de façon ensuite, sans doute, à pouvoir les maîtriser ou au moins à les orienter de la façon qui nous conviendrait le mieux.
Vous parlez du système, disons-le, le stoïcisme est un terme assez générique mais qui renvoie à plus d'une période historique entre le début du stoïcisme et ensuite Sénèque et puis ensuite encore d'autres, il y a plusieurs siècles qui s'écoulent.
Alors en effet, l'histoire du stoïcisme s'étire, on va dire, sur 5 siècles. De Zénon le fondateur, vers 300 avant Jésus-Christ, jusqu'à Marc Aurèle, au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est effectivement une très très longue histoire. Et ce que j'ai essayé de montrer justement dans un livre précédent, c'est les modifications qui peuvent être opérées finalement à l'intérieur du système au fil de cette histoire. Ce qui est important de retenir, je crois, si on veut lire les textes stoïciens, c'est de toujours savoir qui parle, parce que les stoïciens, justement, partent du principe que le système se vit, il se comprend, mais il se comprend d'une rationalité particulière, d'une raison individuelle qui va agencer les éléments du système de manière particulière. Donc Sénèque, par exemple, va prendre certains problèmes à partir d'une certaine perspective, ce qui va l'amener donc à présenter les choses de manière un peu différente de ses prédécesseurs ou de ses successeurs. Marc Aurèle est un très bon exemple pour ça, justement. Il a une manière très précise de vivre le stoïcisme, qu'il conçoit justement comme un exercice de tous les instants, comme une méditation quotidienne, et il montre dans son ouvrage principal, Les Pensées, qu'il faut combattre contre soi-même à chaque instant pour essayer de faire vivre justement cet air vivifiant mais parfois glaçant qui émane des principes stoïciens et que finalement on se bat aussi contre soi-même lorsque nous essayons de comprendre ces principes et de les appliquer.
Vous évoquez Marc Aurèle, on va le retrouver dans une adaptation cinématographique de son règne, le moment où il annonce à son fils Commode qu'il ne sera pas empereur à la suite de lui-même. C'est un extrait du film Gladiator, écoutez.
Tu ne seras pas empereur. Quel homme plus âgé, plus sage prendra ma place?
Je vais passer mes pouvoirs à Maximus pour qu'il en ait la garde.
Maximus?
Oui. Ma décision te déçoit?
Tu m'as écrit autrefois. Quelles sont les 4 vertus majeures? Sagesse, justice, force morale et tempérance. Quand j'ai lu cette liste, j'ai su que je n'en avais aucune. Mais j'ai d'autres vertus, père. L'ambition, qui est bien une vertu lorsqu'elle conduit à exceller. La géniosité, le courage. Peut-être pas sur les champs de bataille, mais il y a plusieurs formes de courage. Le dévouement à ma famille et à toi. Mais aucune de mes vertus n'était sur ta liste. Et même là, tu te comportais comme si tu ne voulais pas de moi pour fils.
Oh, Commode, tu vas trop loin.
J'ai cherché sur les visages des dieux les moyens de te plaire, de te rendre fier. Un seul mot d'ordre, une seule étreinte, où tu m'aurais pressé contre ton cœur et serré très fort, aurait été comme un soleil dans mon cœur pour des siècles et des siècles. Qu'il y a en moi que tu es tant.
Commode, tes fautes de fils sont mes défaillances de père. Ah,
J'aurais massacré le monde entier. Seulement qu'il m'avait aimé.
N'agit ni de mauvais gré, ni de manière asociale, ni sans mûre réflexion, ni tiraillée en tous sens. N'enjolive pas ta pensée, ne parle pas trop, ne te lance pas dans trop d'affaires à la fois. Que le Dieu qui est en toi commande à un être vivant viril, respectable, dévoué à la cité, un Romain, un chef qui s'est mis lui-même en ordre de bataille, qui serait tel celui qui attend le signal pour être délivré de la vie, sans avoir besoin de serment ni d'un autre homme pour témoin. Qui est en lui un sourire éclatant, qui n'ait pas besoin d'aide extérieure, qui n'ait pas besoin de la tranquillité procurée par d'autres. C'est donc droit qu'il faut être, et non redressé. Si tu trouves dans la vie humaine quelque chose de meilleur que la justice, la vérité, la tempérance, le courage, en un mot le fait que ta pensée se suffise à elle-même, en cela qu'elle te fait agir conformément à la droite raison, et qu'elle est satisfaite de son destin et des choses qui sont attribuées sans que nous les ayons choisies. Si donc, dis-je, tu vois quelque chose de meilleur, tourne ton âme tout entière vers et jouis de cette belle chose que tu as trouvée. Mais si rien ne te semble meilleur au génie qui s'est installé en toi, qui rend obéissante tes propres impulsions, qui examine tes représentations, qui s'est arraché lui-même aux affections sensibles, qui s'est soumis lui-même au Dieu qui prend soin des hommes, si tu trouves que toutes les autres choses sont petites et de peu de prix, ne t'occupe de rien d'autre. Si tu y inclines une seule fois et que tu te laisses détourner, tu ne seras plus capable de préférer sans être distrait ce bien qui t'est propre et qui est le tien. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons des stoïciens aujourd'hui à l'occasion d'un ouvrage que la philosophe Christelle Veillard fait paraître aux éditions Ellipse, Une philosophie de l'exigence. Et en effet, quand on entend ce texte de Marc Aurèle que je viens de lire, Christelle Veillard, qui suit l'extrait de Gladiator, qui met en scène justement Marc Aurèle et la transmission difficile à son propre fils des vertus qu'il prône, c'est bien d'exigence qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'il y a une forme il y a comme une liste de vertus à suivre. Si ces vertus ne sont pas suivies à la lettre, alors c'est le drame ici dans l'histoire. Ce que l'histoire nous montre, c'est que ça s'est retourné contre Marc Aurèle lui-même, qui était très vertueux, mais peut-être pas un si bon père, parce que les vertus ont fait qu'il n'a pas transmis ce dont son fils avait besoin.
Alors en effet, c'est donc le texte que vous avez lu et puis l'extrait qui a été passé sont tous deux très intéressants et très instructifs sur, en premier lieu, sur la conception que les stoïciens ont de l'affection qu'un parent peut avoir pour son enfant. Alors, on voit bien qu'il y a une affection réelle entre Marc Aurèle et Commode, mais que justement, cette affection n'est pas un motif pour transmettre le pouvoir. Donc ça, c'est un principe de base, que les émotions ne peuvent pas être des raisons d'agir. Les raisons d'agir, ce sont toujours des jugements droits ou des qualités morales que justement Commode ne possède pas. Alors, est-ce que Marc Aurèle est responsable? Il dit « tes fautes de fils sont mes défaillances de père », c'est une belle formule. L'idée des stoïciens, c'est que au départ, nous avons tous la même capacité à atteindre les vertus, qu'il n'y a pas d'inégalité radicale du point de vue de l'usage possible de sa rationalité. Ça, c'est un principe démocratique, on pourrait dire, posé par les stoïciens. Ceci étant, chacun est responsable ensuite de la manière dont il va utiliser sa raison. Donc Marc Aurèle a transmis un bon modèle, comme il a lui-même reçu de bons modèles, comme il le dit dans ses pensées. Mais l'usage que Commode a fait de ces modèles, de ces exemples, justement de ces conseils, c'est quelque chose dont Commode est uniquement responsable et finalement redevable, puisque l'un des principes aussi stoïciens de base, c'est qu'on ne peut jamais être à la place de l'autre, parce qu'on ne peut jamais s'immiscer dans ses pensées, ce qui paraît être un principe tout à fait de bon sens. Chacun est vraiment libre dans sa maison, libre dans sa rationalité, et personne ne peut orienter définitivement la manière dont nous construisons nos représentations et nos jugements. Donc lorsque Marc Aurèle dit « finalement c'est ma faute si tu n'as pas toutes ces vertus », il ne respecte pas en ce sens le principe stoïcien que je viens d'expliquer, à savoir il a lui de toute façon donné de bons exemples, mais Commode n'a pas été capable de les suivre ou n'a pas voulu les suivre.
Ça veut dire qu'il n'y a aucune place pour l'empathie.
Alors, en fait, pas tellement.
Pas tellement de place.
Pas tellement oui, c'est de place. Ça. Je veux un peu nuancer la chose, ouais. Puisque chez Marc Aurèle, c'est toujours très subtil et complexe. Et il dit, justement, quelqu'un qui n'est pas vertueux, il faut le corriger, ne pas se fâcher contre lui, et quelquefois, prendre conscience que s'il pense de cette façon-là, c'est que peut-être il a été amené à penser de cette façon-là pour certaines raisons, qu'il faut essayer de détricoter, il faut essayer de lui montrer pourquoi il a atteint ce chemin. Mais ensuite, l'autre est tout à fait libre, soit d'admettre la démonstration que je viens de faire, soit de la rejeter. Donc il y a toujours cette autonomie totale de la rationalité individuelle. Et donc finalement, l'empathie, elle ne joue pas un rôle primordial. Ce qui joue le rôle primordial, c'est vraiment la démonstration rationnelle. Je vais te montrer pourquoi tu te trompes. Je peux comprendre jusqu'à un certain point pourquoi tu te trompes. Mais si tu continues à suivre la voie qui est erronée, comme je te l'ai montré, alors je n'ai pas beaucoup de raisons ni d'avoir pitié de toi, ni de vouloir souffrir avec toi, puisque tu as choisi la voie que tu as choisie. Ça, c'est effectivement l'un des principes aussi qui est à la fois un principe très exigeant, qui pose une responsabilité totale des individus, une liberté absolue de la manière dont ils agencent leurs idées, et en même temps, ça implique l'idée que, eh bien, nous ne sommes pas justement liés les uns aux autres de manière radicale, au sens où justement les liens affectifs entre les parents et les enfants peuvent tout à fait se défaire s'ils sont bombardés justement par des comportements complètement irrationnels.
On pourrait proposer ce que vous faites dans votre ouvrage, à travers ce parcours de pensée que vous proposez à travers plusieurs notions stoïciennes, la nature, la connaissance, la liberté, les désirs, les représentations, le contrôle de passion, des passions, la raison, la loi cosmique, etc. Une espèce de voie que dessinent les stoïciens encore une fois. Et celle-ci, ce serait, partir du constat que nous avons fait en début d'émission de ce temps qui nous échappe, de ce temps qui passe, qui court, dit Sénèque, et nous qui courons après lui pour essayer de le rattraper, avec comme remède ou comme moyen peut-être pour composer avec ce temps et non pas contre lui l'usage de la raison, qui va pouvoir amener, et ce sera peut-être le terme, à une liberté que nous pourrons exercer. Il y a finalement ce départ avec le temps, la prise en compte du temps, l'exercice de la raison pour enfin atteindre la liberté. C'est un parcours qui serait assez représentatif de ce que veut le stoïcisme, n'est-ce pas ?
C'est exactement ça, c'est-à-dire puisque je m'aperçois que tout file ou que je n'arrive pas à me saisir moi-même, parce que le temps s'écoule, je vais m'arrêter sur la seule chose que je peux contrôler de manière totale, à savoir le fil de mes pensées, précisément. Donc ce que les stoïciens vont appeler aussi nos représentations, donc notre manière de voir le monde, notre manière de projeter des jugements sur le monde, ça cet élément-là, donc si on se recentre sur cet élément-là, qui est vraiment nous, qui est nous au sens fort du terme, alors on va pouvoir finalement s'apercevoir que nous sommes des maîtres absolus.
Nous sommes à nous-mêmes notre propre solution, en fait.
Exactement. C'est là la beauté du système. Nous sommes à nous-mêmes notre propre solution. Il n'y a pas de solution extérieure, mystique, ou quelque chose de miraculeux qui viendrait nous sauver. Effectivement, nous pouvons trouver à l'intérieur de nous les ressources nécessaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le postulat de base, c'est que chacun, chaque être, homme, femme, quel que soit son poste, ses responsabilités, etc., a la possibilité de faire cet usage absolu, disons, de ses représentations et de ses jugements.
Changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, en réalité, c'est se prendre pour l'origine même de nos actions, ce qui implique quand même une forme de fermeture, non seulement aux autres, mais au monde. Il faut se considérer comme étant le maître en notre propre maison, vous disiez, notre propre maître, notre propre solution, mais ça veut dire vraiment que c'est soi-même qui doit prendre toute la place d'abord.
D'abord, en effet, c'est la première étape et c'est ce qu'explique Sénèque lorsqu'il dit « arrête de te disperser, concentre-toi sur ce que tu fais maintenant au lieu de papillonner dans tous les sens et de t'occuper des autres avant de t'occuper de ce que toi tu peux mettre en place. » Et ensuite, ce qui est important, c'est que cette fermeture initiale, c'est la condition de possibilité pour vivre correctement tous les actes d'ouverture à l'autre. Parce que sinon, si nous n'avons pas fait ce pas de fermeture, nous sommes à nouveau soit dans le regret, soit dans la dispersion, soit dans l'affection ou l'émotion qui nous fait perdre de vue l'essentiel et qui fait que nous allons agir de travers et continuer à nous perdre à nouveau et finalement le travail sera à recommencer. Donc cette fermeture, elle n'est pas définitive, c'est un premier pas pour ensuite rendre possible de véritables relations d'affection. Parce que le témoignage, enfin, disons que le dialogue que nous avons vu entre Marc Aurèle et Commode, c'est une espèce de dialogue de sourds, l'un disant qu'il a des vertus et l'autre lui disant que non. Finalement, la véritable relation d'affection, c'est une relation de sincérité, dit Marc Aurèle. Je vais te dire ce qui ne va pas chez toi et je ne vais pas te confier de tâches qui ne te conviennent pas. Ça, c'est le discours de sincérité. Ce qui n'implique pas aussi un discours de bienveillance et finalement d'affection véritable, dans la mesure où je sais exactement ce que l'autre peut faire et du coup, je ne le mets pas en porte-à-faux par rapport à ce qu'il ne pourra pas faire. Ou je ne lui fais pas de chantage affectif, ce genre de choses.
Mais au fond, une telle exigence, une telle rigueur que demande le stoïcisme, n'a de sens que si on comprend qu'elle est la seule façon de diminuer une douleur très forte. Au fond, est-ce que le stoïcisme n'est pas une philosophie qui s'adresse aux gens qui souffrent, et qui souffrent tellement qu'ils préfèrent s'imposer une telle rigueur et une telle contrainte pour diminuer la souffrance ?
Alors, je ne sais pas si... c'est toujours pareil, chaque stoïcien a développé son système à partir de ses propres...
Le but est quand même de diminuer la douleur à chaque fois, non ?
Alors, je ne dirais pas ça, puisque là, on serait pratiquement chez Épicure. La douleur n'est pas tellement un problème. Ce qui est un problème, c'est l'insatisfaction. Le fait d'épuiser sa vie à ne rien faire d'important. Il y a une exigence morale très forte chez les stoïciens, il faut assumer son statut d'homme.
Voilà, c'est plus moral que physique. Donc, c'est pas tant la diminution de la douleur que l'acte vertueux, vraiment, pour lui-même.
C'est vraiment l'acte vertueux qui est une solution à l'insatisfaction humaine. Peut-être ce serait formulable comme ça.
On peut rire de ces philosophes qui discutent de la nature des miroirs, qui se demandent pourquoi ils nous renvoient notre visage en le tournant de notre côté, pourquoi la nature a voulu, après avoir mis au monde les véritables corps, que l'on puisse aussi en regarder les simulacres. Dans quel but elle a disposé une matière capable de recevoir des images ? Il va de soi que ce n'est pas pour que nous nous épilions la barbe devant un miroir, ni pour que nous, les hommes, nous ne fassions de gommage. En aucune façon, la nature ne s'abaisse à commercer avec la luxure. Mais tout d'abord, parce que les yeux, trop faibles pour regarder le soleil en face, auraient ignoré sa forme, elle la leur a fait voir en ternissant son éclat. Il est bien sûr possible de l'observer à son lever et à son coucher, cependant que nous ne saurions pas quel est son véritable aspect, non pas quand il rougeoie, mais quand il nous éblouit de sa lumière blanche, si quelque liquide ne nous le présentait sous un aspect adouci et plus facile à observer. Les miroirs ont été faits pour que l'homme puisse se connaître lui-même. Ensuite, les conseils que voici. S'il est beau, il évitera ce qui le déforme. S'il est laid, il saura que les vertus compenseront les défauts du corps. S'il est jeune, il sera prévenu que la fleur de l'âge est le moment d'apprendre et d'oser de courageuses actions. S'il est vieux, il renoncera à ce qui déshonore ses cheveux blancs et donnera quelques réflexions à la mort. Voilà pourquoi la nature nous a donné la possibilité de nous voir nous-mêmes.
Esclave du miroir magique, à court du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle ! Et montre-moi ta face.
Que veux-tu voir, ma reine ?
Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?
Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas encore plus belle que toi.
Décris-la-moi. Apprends-moi son nom.
Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige.
Blanche-Neige.
Et oui, comment être libre dans un monde nécessaire? Il faut apprendre à se connaître, partir de soi, nous disons Christelle Veillard. Mais comment faire pour arriver à se connaître suffisamment soi-même pour composer avec ce qui nous compose et peut-être atteindre cette liberté? Eh bien, un des moyens possibles, c'est de se regarder dans un miroir, nous dit Sénèque. Mais attention, il y a une certaine utilisation à faire de ce miroir. L'exemple de Blanche-Neige est assez cocasse parce qu'il est exactement une des utilisations que l'on peut faire du miroir qui ne vise pas à se connaître soi, mais au contraire à se comparer ou à tomber dans une forme de coquetterie. Bref, un mauvais usage des représentations que nous avons de nous-mêmes.
Oui, tout à fait. Alors, c'est aussi l'idée que je veux voir la vérité en face. Ça, c'est le premier pas à faire. Et que Margorel dit d'une autre façon, je ne peux pas avoir des yeux qui ne veulent voir que du vert. Si je ne veux voir que du vert, à coup sûr je serai malheureux parce que manifestement le monde n'est pas totalement vert. De la même façon, ce serait comme avoir des dents qui ne veulent que du tendre. À ce moment-là, je refuse les obstacles, je refuse même de les voir et du coup j'affaiblis mes capacités d'affronter les difficultés. Donc voir la vérité en face, c'est le premier pas donc pour atteindre une connaissance véritable des choses, de la nature des choses ou de l'ordre du monde. Et le texte que vous avez lu de Sénèque sur le miroir explique que la nature est bien faite et que c'est elle qui nous a procuré finalement ce moyen de regarder les choses, même les plus lointaines. Nous pouvons regarder le soleil et le connaître tel qu'il est, précisément parce que nous le voyons de manière indirecte, dans des liquides qui le réfléchissent. Et de même, cela nous permet donc de nous regarder évoluer au cours de notre existence et de déterminer à chaque moment de cette existence des comportements qui sont appropriés et d'autres qui ne sont plus appropriés à notre âge.
C'est ça, voir la vérité bien en face n'exclut pas l'usage de médiation pour y parvenir. Le miroir en est une.
Alors tout à fait. Encore une fois, le rapport à la nature n'implique pas que nous n'avons aucune possibilité d'inventer des outils techniques et même des outils d'abord conceptuels, hein, puisque la raison est d'abord un outil technique pour essayer de découper le monde en définitions, en catégories, pour pouvoir l'appréhender de manière fine. Donc, on va augmenter, disons, notre capacité rationnelle par des inventions techniques, par des sciences, par tout un tas d'outils qui vont nous permettre donc d'avoir une compréhension globale de la totalité des phénomènes du monde. Le texte de Sénèque, qui est issu des questions naturelles, s'intéresse d'abord à la formation des arcs-en-ciel, de la foudre, du tonnerre. Tous ces éléments-là sont des éléments nécessaires pour contrecarrer des représentations fausses que nous pourrions avoir du monde. Par exemple, que la foudre, c'est l'outil de Zeus pour punir les mortels. Nous savons, justement, par les investigations scientifiques et par l'esprit strictement rationnel qui doit être déployé, que la foudre, c'est dû au frottement de deux nuages, disent les stoïciens, et qu'il n'y a rien à craindre ou rien de terrifiant en soi dans cette manifestation-là. Donc le miroir, c'est un des outils techniques possibles. Et alors ce que vous n'avez pas lu et qui est dans un passage qui précède, je crois, ce texte, c'est qu'on peut faire un usage tout à fait dévié du miroir, puisque Sénèque critique l'usage que certains hommes font de ce miroir pour s'épiler la barbe, etc. Mais aussi, il critique l'usage qu'un certain Romain faisait de ces miroirs, puisqu'il avait tapissé sa chambre avec ces miroirs pour pouvoir mieux s'observer lorsqu'il avait des relations avec ses maîtresses, donc pour jouir à la fois par les yeux et par le corps de cet exercice de luxure. Donc on peut aussi, effectivement, utiliser notre ratio. C'est vraiment important comme... Comme remarque, c'est que nous pouvons utiliser notre rationalité et sa capacité technique dans les deux sens, à la fois de manière déviée ou non droite, et à la fois, évidemment, de manière droite. L'objectif du stoïcisme, c'est de nous indiquer quelle est la manière droite.
Mais cette manière droite, justement, c'est-à-dire les vertus, qu'ont-elles comme fondement ? C'est-à-dire qu'on comprend que pour le stoïcisme, la nature est une norme qu'il faut suivre, avec laquelle en tout cas il faut composer, mais les vertus, à la fin du texte de Sénèque que j'ai lu, il dit bien, voilà, avec le miroir, les miroirs ont été faits pour que l'homme puisse se connaître lui-même, la nature est bien faite en ce sens, elle aide l'homme à se connaître, mais il y a un bon usage et un mauvais usage des miroirs, on l'a vu, hein. S'il est beau, il évitera ce qu'il déforme, s'il est jeune, il sera prévenu, etc. On ne fait pas ce qu'on veut. Et d'où vient, comment fonde-t-on cette vertu que produit l'homme et qui n'est pas contenue dans la nature elle-même et qui va ensuite déterminer le comportement à adopter ? S'il n'y a pas de transcendance, ça vient d'où en fait cette vertu ?
Alors justement, la beauté de la chose, c'est que cette norme vient de nous. Elle vient de notre capacité à établir une définition du bien. La définition du bien, ou le seul bien, c'est la vertu, la disposition harmonieuse de l'âme. Et nous parvenons à ce résultat, un peu étrange du coup, que le seul bien est la vertu, simplement en examinant tout ce qui peut nous être utile dans le monde. Donc les stoïciens disent, le bien c'est ce qui est utile, mais c'est ce qui est utile par soi, indépendamment des circonstances. Et si nous recherchons un élément qui corresponde à cette définition, ce qui est toujours utile par soi, indépendamment des circonstances, nous ne pouvons jamais trouver autre chose que cet élément qui est l'équilibre ou la vertu ou la disposition harmonieuse. Si nous utilisons la richesse, par exemple, nous pouvons l'utiliser soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. De la même façon, le plaisir, l'usage du miroir pour s'observer dans des activités sexuelles, c'est quelque chose qui peut être à la fois positif et à la fois négatif. Si nous cherchons justement ce qui peut être, ce qui n'est que positif, ce qui est toujours utile, alors on a la définition qui vient, c'est-à-dire faire le bien, être toujours en équilibre avec soi-même, être toujours en harmonie avec ce que l'on fait. Donc c'est cette définition un peu lâche, finalement.
Lâche dans quel sens ?
Lâche au sens où elle est très indéterminée, vous voyez.
Donc peut-être dans l'autre sens aussi, du coup.
Non, je crois pas. C'est une définition un peu flottante, on va dire, ouais. Pour ne pas dire lâche.
Mais ce qui est étonnant pour une telle philosophie de l'exigence, comme vous la nommez, que cette définition du bien soit si flottante.
Alors, elle est flottante, oui et non. C'est-à-dire, c'est l'exemple que je donne toujours, c'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? C'est une manière de bien se disposer de manière droite, donc sans contredire la définition même de la vertu. Par exemple, si je veux être généreux, exercer la vertu de générosité, je ne peux le faire que si je suis sans arrière-pensée, sans calcul, donc je ne peux pas donner quelque chose parce que j'attends quelque chose en retour. Faire cela, ce serait détruire l'action que je suis en train de faire, c'est-à-dire ne pas exercer la générosité. De la même façon, le bien, c'est ce qui est toujours utile, c'est-à-dire ce qui jamais n'aura de conséquences néfastes, quelles que soient les circonstances. Et si on prend au sérieux cette définition, alors nous sommes conduits à admettre que, à l'intérieur de cette catégorie-là, de ce qui est toujours utile et ne peut jamais se renverser en mal, il n'y a justement qu'une seule classe d'objets, et ce sont les vertus, le fait de faire le bien de manière désintéressée pour l'amour du bien.
Ce qui là dépasse la définition de l'harmonie, là, c'est faire le bien pour le bien, on n'est plus dans l'utilité.
Alors, en disant que ce qui est véritablement utile, ça n'est jamais que faire le bien, puisque vous pourrez voir que si vous vous comportez, alors ça c'est une thèse aussi stoïcienne importante, si vous vous comportez de manière intéressée ou toujours en train de calculer vos rapports avec les autres, vous allez perdre l'authenticité que vous allez perdre votre socle, le socle qu'on avait obtenu au départ en se centrant sur la droiture de nos représentations, et à ce moment-là, du coup, vous allez obtenir des effets néfastes.
Il y a un parallèle à faire entre le stoïcisme ou la façon que vous avez d'en parler et des méthodes beaucoup plus contemporaines qui sont celles de la méditation où on est en coïncidence avec ses propres représentations et l'idée de partir de soi, de se défaire des passions, de toute forme d'affect qui viendraient troubler notre équilibre intérieur. Est-ce que ce parallèle tient ?
Alors oui, il a déjà été fait entre le stoïcisme et puis les thérapies cognitives qui posent que toutes les émotions émanent des jugements et que nos jugements sont en notre pouvoir et que donc nous pouvons avoir un contrôle sur nos émotions justement par le biais du contrôle des représentations. Quand Marc Aurèle fait ses exercices de méditation, c'est un exercice qui est d'abord écrit, parce qu'il se remémore les outils techniques du stoïcisme qu'il est en train de mettre en place. Et puis, c'est vraiment un exercice pour muscler son âme, donc il faut le prendre au terme physique.
Alors, dans l'avantage de votre livre aussi, c'est qu'on y trouve, à côté de Sénèque, de Cicéron et de Marc Aurèle, des stoïciens beaucoup moins connus. Et par exemple, ce texte de Hiéroclès, que vous citez dans votre livre, qui pour montrer qu'il faut suivre la nature pour être libre, prend un exemple très parlant et il dit « Chacun d'entre nous est comme inscrit tout entier dans de nombreux cercles, les uns plus petits, les autres plus grands, les uns qui entourent, les autres entourés, en fonction des relations différentes et inégales que l'on entretient les uns avec les autres. Le premier cercle, le plus proche, est celui que quelqu'un a tracé comme autour d'un centre qui serait sa propre pensée. Dans ce cercle est compris le corps. Ce cercle est le plus petit, il s'en faut de peu qu'il touche son propre centre. Le second, après celui-ci, est plus éloigné du centre. Il enveloppe le premier et contient parents, frères, femmes, enfants. Et après cela, il y en a un troisième contenant oncle et tante, grand-père et grand-mère, neveux, nièces, cousins. Et le cercle extrême est le plus grand, qui enveloppe tous les cercles, et celui du genre humain tout entier. » C'est une manière extrêmement claire et imagée de figurer finalement une forme d'éthique à suivre qui part de soi. On est là, vraiment dans l'éthique stoïcienne, partir du premier cercle concentrique que compose notre corps et notre personne, et ensuite accorder de l'importance à ceux qui nous entourent en fonction de son degré de proximité avec le centre. Je crois que c'est un exemple d'ailleurs repris par David Hume dans sa théorie de l'égoïsme, justement.
Alors en effet, ce qui est important, c'est de considérer que le centre, c'est la pensée, dianoia, donc « je suis ma pensée ». C'est ce que nous disait Sénèque dès le départ, et c'est ce que disent tous les stoïciens d'une seule voix, « je suis ma pensée ». Et à partir de ce noyau, je vais installer des relations d'affection et des relations de justice avec les autres hommes, du plus proche au plus lointain. Ce qu'explique Hiéroclès, qui est assez intelligent, je crois.
Donc lui, il est au deuxième siècle après Jésus-Christ.
On ne sait pas trop où le mettre, d'accord. On n'a pas beaucoup de renseignements sur ce point. Donc ce qu'il explique, lui, c'est que d'abord nous aimons naturellement plus nos enfants que notre voisin ou bien quelqu'un qui habite un autre pays, mais que l'objectif du stoïcisme, c'est justement de transférer cette affection que nous avons pour le plus proche jusqu'au plus lointain. Donc c'est de parvenir de ce centre égotique jusqu'à la philanthropie pour instaurer une justice et une affection entre tous les hommes. D'abord, évidemment, entre tous les sages ou entre tous ceux qui auraient une raison droite ou vertueuse, mais peut-être éventuellement aussi d'être responsable ou de se sentir en charge de la totalité de l'humanité. Donc la théorie stoïcienne de l'amitié, elle est basée sur ce point, à savoir on peut aimer comme étant un ami un vertueux qu'on n'a jamais rencontré, quelqu'un qu'on n'a jamais vu parce que c'est une raison droite, dont on sait qu'elle est une raison droite, sans avoir de relation de proximité avec lui. Donc ça, c'est une théorie qui s'oppose véritablement aux autres théories de l'amitié, qui sont par exemple celles d'Épicure ou d'Aristote, qui disent qu'il faut, pour que l'amitié soit réelle, une intimité, une vie quotidienne avec l'autre. Chez les stoïciens, on n'a pas ça du tout. Il y a l'idée que nous avons un amour généralisé pour toutes les âmes qui sont droites.
Quelle bonne nouvelle. Merci Christelle Veillard, on va s'arrêter là-dessus. Et surtout,
merci à vous.
Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Les Stoïciens, une philosophie de l'exigence aux éditions Ellipse. On y trouve tous les textes les plus importants. On a un très bon corpus de textes commentés par vous, des éléments instructifs d'introduction et puis aussi pour aller plus loin surtout sur le stoïcisme. Évidemment, un vocabulaire du stoïcisme. Aux éditions Ellipse, on a toujours un vocabulaire des philosophes. Bref, c'est un ouvrage dans la collection Aimer les philosophes que vous pouvez vous procurer, chers auditeurs. Il est en ligne sur notre site.
Oh mon amour, oh mon miroir, oh mon amour incombustible. Tu viens de là où d'autres rentrent, même à fêlure en bas des ventres. Je suis ta haine, ta pourriture, ta honte et ta nourriture. Tu me connais dans mes recoins, je te reconnais sous mes seins. Oh mon amour, oh mon miroir, je suis ta reine imputrescible. Notre désir est cannibale, je suis ton dégoût, tu m'avales. Tu es mon éjaculation. Je voudrais mourir d'invasion, déchirer les robes et la peau, enfin empaler par le haut. Oh mon amour, oh ma figure, je me vois avant la souillure. Tu me ressembles et tu me hais, Un matin nous serons en paix. J'entends encore dans mes grands bois ta voix d'enfant criant pour moi, criant maman comme une bête. J'ai tellement peur que ça s'arrête.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les vendredis, de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme chaque vendredi en période électorale, vous êtes là pour donner quelques conseils aux candidats qui se présentent donc aux élections législatives. Cette semaine, alors à qui avez-vous choisi de donner un conseil ?
Cette semaine, alors je vais certes donner un conseil effectivement à trois candidats aux législatives, Marielle de Sarnez, Richard Ferrand et Jean-Luc Mélenchon, mais pour interroger ce qui peut intéresser tout autre candidat ou élu et qui va même faire l'objet d'un projet de loi, la moralisation de la vie publique ou l'occasion de poser cette question qui a tout d'un sujet de bac de philo, peut-on être moral en politique ?
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout.
À chaque époque, son expression. Transparence, exemplarité ou aujourd'hui, depuis l'affaire Fillon, notamment moralisation. Les mots ne manquent pas pour désigner ce souhait des électeurs et des élus, d'ailleurs aussi, qui ne cessent de le clamer, de voir enfin et définitivement la politique lavée de tout soupçon. Mais pourquoi donc les hommes politiques devraient-ils être irréprochables ?
Il suffisait d'écouter M. Philippot hier matin sur votre antenne. Hein, on essaye de salir tout le monde pour essayer de s'en sortir. Eh bien moi je dis aux gens du Front National que nous n'avons pas les mêmes pratiques qu'eux et que nous, quand nous avons des assistants parlementaires, ils travaillent pour nous, ils font leur boulot. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes des députés européens qui travaillons aussi au Parlement européen.
Être irréprochable, c'est être moral. Mais être moral, c'est quoi ? Dès qu'une affaire vous tombe dessus en politique, la question se pose cruellement, et c'est le cas de Marielle de Sarnez que l'on vient d'entendre, visée pour des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Alors pour y répondre et aider notre nouvelle ministre des Affaires européennes, on peut faire confiance au philosophe par excellence de la morale, Kant, évidemment. Kant, qui dans les fondements de la métaphysique des mœurs, et pour fonder justement toute sa morale, part de la bonne volonté. La bonne volonté où, je cite, « ce qui est tenu pour bon, sans restriction, qui ne se juge pas pour ses œuvres ou ses succès, mais pour elle-même. C'est ça, la bonne volonté est bonne en soi, précise Kant, sans justification. » De quoi rassurer donc Marielle de Sarnez, être bon, moral, honnête, exemplaire, irréprochable, n'a pas besoin d'être clamé, au contraire. Mais comment l'être sans le dire, sans le montrer, sans le prouver, quand on est un politique et que l'on est accusé ? C'est bien le paradoxe de la moralité en politique, prouver sa moralité alors même qu'elle ne peut pas se prouver.
J'ai fourni toutes les pièces, j'ai donné tous les éléments de réponse, parce que justement je veux que les Françaises et les Français soient éclairés, que les marcheuses et les marcheurs, dont je suis secrétaire général d'En Marche, vous le savez, eh bien n'aient pas de doute. Par conséquent, j'ai tout donné à vos confrères, tout ce qu'ils m'ont demandé, je leur ai répondu. Alors ensuite qu'ils fassent des exégèses, c'est leur droit. Mais la question, elle est, est-ce que je suis un homme honnête ou pas ? La réponse, oui, je suis un homme honnête.
C'est bien aussi le problème de Richard Ferrand, notre nouveau ministre de la cohésion des territoires et candidat dans le Finistère. Il ne cesse lui aussi de se justifier, il a même tout donné. Et certes, il ajoute qu'il est honnête, il a compris Kant, il a bien compris, je cite, que ce qui fait que la bonne volonté est telle, ce ne sont pas ses œuvres, c'est seulement le vouloir. Mais lui aussi ne fait que le dire. Et on retombe donc sur le même problème, comment donc prouver sur la scène publique sa bonne volonté qui elle-même ne se démontre pas, même Kant concède que la tâche est difficile, qu'un soupçon peut toujours s'éveiller, que rien ne garantit que l'on soit purement bon, sans aucune intention intéressée à l'être. Mais alors, pourquoi encore vouloir le prouver ? À quoi bon s'en défendre ou le prévenir avec une loi de moralisation, au risque d'être soupçonné de le faire par intérêt ? Et si en retournant le problème, on se demandait non plus comment prouver que l'on est bon ou moral, mais comment l'être en politique sans avoir à le prouver ?
Comment il s'appelle le dernier là, que son nom m'échappe, qui était Premier ministre là, comment vous l'appelez ? Oui, Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Le gars qui a fait gazer, matraquer toutes les manifestations et qui prend maintenant venir prendre sa tête de petit saint qui touche pour me dire que c'est moi qui ne sais pas choisir entre le Front National et je ne sais pas qui, non, c'est pas ce que nous avons dit.
Comment être bon sans avoir à le clamer, à le brandir, à en crâner, pire, à se satisfaire de cette seule apparence ? C'est bien l'enjeu de la morale kantienne, mais aussi de toute politique. Et on peut dire que Jean-Luc Mélenchon, lui aussi candidat aux législatives, est lui aussi visé par une plainte déposée par Bernard Cazeneuve suite à ses propos, ne tombe pas dans cet écueil de cultiver, seulement pour cultiver des qualités morales. On peut dire même qu'il est très loin de qualités comme la tempérance, par exemple, ou la maîtrise, ou encore le calme, la réflexion, qui, sans bonne volonté, peuvent même cacher la pire immoralité. Mais si être moral ne se montre pas, faut-il pour autant en montrer le contraire et contrarier les règles d'usage et de civilité ?
Bon, en clair, Géraldine, votre conseil, c'est de lire Kant, de toute façon, de manière générale, et là en particulier.
Bah là, il faut lire Kant, effectivement, il faut lire les fondements de la métaphysique des mœurs, dont la suite expose le célèbre impératif catégorique de la morale kantienne. Ou alors, je conseille, dans un tout autre style, Adèle, je conseille la lecture de L'homme de cour de Balthazar Gracian. C'est l'inverse de Kant, c'est comment avoir l'air moral sans l'être du tout.
Balthazar Gracian ou Kant, eh bien, ce sera le choix du week-end, hein, et puis on se retrouve pour lundi pour le résultat. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter sur le site des Chemins de la Philosophie et à podcaster, tout comme cette émission, aujourd'hui en compagnie de Christelle Veillard sur les stoïciens. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine qui commencera avec une journée spéciale organisée par France Culture sur à propos des élections 2017 avec pour horizon 2022. Révolution dans la vie politique, point d'interrogation, c'est la question que nous poserons toute la journée sur cette chaîne. Et nous recevrons, pour répondre à cette question, le philosophe et homme politique, ancien ministre en tout cas, Luc Ferry. Cette émission s'inscrira dans le cadre d'une semaine spéciale que nous vous proposons, intitulée « La politique est-elle un métier ?» Après Luc Ferry, lundi donc, nous recevrons mardi Alexis Lavis qui viendra parler de « Han Feizé » ou « Se cacher pour mieux régner ». Mercredi, nous parlerons de Castoriadis, « La démocratie est-elle l'affaire de tous ?» en compagnie de Nicolas Poirier. Et jeudi, Platon, le philosophe au pouvoir, et c'est le philosophe Dimitri Elmure qui viendra vous en parler. Pour réécouter cette émission, je l'ai dit, donc rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie pour la réécouter en ligne ou la télécharger. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie pour cette semaine, Olivier Bétard qui l'a réalisé, Anthony Thomasson et Philippe Mercher qui est à la prise de son aujourd'hui, mais aussi Géraldine Mosna-Savoie, Livia Garrigue, Marianne Chasseur, Nicolas Bouteloup, Antoine Ravon, Yvan Morane qui a lu les textes. À 11h sur France Culture, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde, mais tout de suite, votre feuilleton quotidien, La Vie Moderne.